Vous savez que c'est l'usage dans les organisations. Lorsqu'une entité UMP ou autre a des problèmes, elle change de nom. Or nous, nous avons traversé quelques turbulences à Radio France. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je propose donc que l'on se rebaptise l'excellent poste de radio. Bah oui, excellent poste de radio. Alors vous comprenez peut-être pas pourquoi cette nouvelle nomination pourrait nous aider à aller mieux, en dehors d'une satisfaction narcissique peut-être un peu puérile, j'en conviens. Eh bien, excellent poste de radio, ça fait EPR, oui oui, comme l'EPR de Flamanville, un machin qui jusqu'ici nous a coûté 9 milliards d'euros et qui produit pour le moment à peu près autant d'électricité que France Inter, France Musique, France Info et Move réunis. Mais à la différence de l'EPR, RF, autrement dit Radio France, ne perd que 20 millions par an. Alors je m'en voudrais de faire chaque jour la même chronique. On en profiterait pour nous accuser encore, nous salariés de Radio France, d'être des feignasses. Mais enfin, je suis quand même obligé de rappeler que le nucléaire n'est pas seulement dangereux, il est aussi beaucoup plus coûteux que les énergies propres. Il y a deux mois, suite au scandale Areva, j'avais annoncé un coût de 123 euros par Français pour éponger le trou d'Areva. Avec l'EPR, on n'est pas loin d'une redevance de 400 euros par tête de pipe pour des programmes que l'on ne reçoit que sur son compteur Gégère. Je propose donc de fermer Flamanville et d'utiliser les quelques milliards restants du nucléaire pour terminer le chantier de la maison ronde. Il paraît que le dernier réacteur de Flamanville est dangereux, mais si on le transforme en auditorium, on ne risquera que des fausses notes. Quant à nous, à France Inter, tous ces milliards, ça nous permettra d'être radioactifs.
France Inter, service public, Guillaume Herner.
À quoi bon courir ? Pour en parler, je suis en compagnie de Jean-François Toussaint. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Toussaint, vous êtes directeur de l'IRMES, l'Institut de Recherche Médicale et d'Épidémiologie du Sport, auteur du rapport PNAPS, Programme National de Prévention par les Activités Physiques et Sportives. Et enfin, vous avez coordonné l'ouvrage « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ? » En face de vous, Clémence Lefébure. Bonjour.
Bonjour.
Clémence Lefébure, vous êtes runneuse, vous avez un blog qui s'appelle runninglicious.com et vous avez commencé le running il y a 2 ans. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir, puisque vous allez nous dire ce que l'on peut faire en 2 ans. Gilles Tanguy, vous êtes journaliste au mensuel Capital et vous avez coordonné le dossier Le business du running qui est paru dans le dernier numéro d'avril du magazine. Et puis enfin, mon camarade Bernard Thomasson, bonjour, de France Info. Vous écrivez: courir est un besoin, une bulle qui suspend la vie, le sentiment de retrouver la partie de soi perdu dans le maelstrom de l'existence. Vous l'écrivez dans votre roman 42 km 195 qui vient d'être publié, un roman en partie imaginaire comme tous les romans, en partie autobiographique, puisque vous courez, Bernard Thomasson, vous courez 42 km 195. Ça correspond à quoi, ça?
Ça correspond à la distance exacte du marathon, qui est l'épreuve mythique pour beaucoup de coureurs, et que les 10 millions de runners en France, puisque nous sommes quand même 10 millions à courir chaque semaine, dont peut-être vous, Guillaume, je ne sais pas.
Et oui, je ne cours pas assez, mais je cours.
La question piège. Donc voilà, 10 millions de personnes qui courent, et parmi ces 10 millions, il y en a beaucoup qui rêvent un jour de faire la distance du marathon.
Mais alors vous l'avez fait, contrairement à
je
moi,
l'ai
Bernard.
Je l'ai fait presque 20 fois. Oui.
Faut être maso.
Non, faut pas être maso. Faut aimer la course, mais la course, on y prend un plaisir inouï. Ça libère de plein de choses. C'est être libre dans sa tête à un moment ou un autre. C'est-à-dire qu'on se déconnecte de tout. C'est être libre dans son corps. On peut aller où on veut, quand on veut. J'ai envie de tourner à droite. Ce petit sentier à gauche me plaît davantage. J'y vais le matin, j'y vais l'après-midi, j'y vais seul avec des copains. C'est être libre dans la société parce que on se détache de toutes les contraintes qu'on a. C'est courir avec son boss. On est tous les deux en short et on parle d'autre chose que des problèmes de la boîte. C'est une liberté absolue, la course. Donc, c'est un plaisir avant tout. C'est vraiment un plaisir avant tout. Alors, il y a de la souffrance,
voilà,
je souhaite dire.
Vous parlez de
quand
liberté,
on fait un marathon,
mais
un
marathon, c'est aussi beaucoup de contraintes. Votre roman 42 km 195 est rythmé par les différents kilomètres du marathon.
C'est ce que j'ai voulu raconter, c'est le marathon de l'intérieur. C'est la première fois, d'ailleurs, je crois qu'un livre raconte un marathon de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est dans la peau, dans la tête du coureur. On vit sa sueur, sa transpiration, ses souffrances, mais aussi ses doutes, ses joies, ses plaisirs. L'arrivée à la fin, pour tout coureur qui a fait un marathon, c'est un moment de bonheur absolu de franchir la ligne du marathon. C'est vrai qu'il y a une part de travail important avant, on ne se lance pas dans un marathon n'importe comment, et notre camarade médecin nous le dira, c'est pas anodin de courir un marathon, il faut vraiment se préparer bien avant, mais quand on est bien préparé, je crois qu'on peut vivre un moment exceptionnel. C'est un instant où on suspend sa vie.
Clémence Lefébure, vous courez et vous avez donc commencé à courir il y a 2 ans.
Un peu moins de deux ans.
Et alors avant, quel sport faisiez-vous?
C'était le néant sportif. Hein. Je suis une ex-nulle en sport. Je n'ai jamais accroché à un sport. Le sport, ça a toujours été une contrainte pour moi. C'était juste une matière à l'école. Je me souviens d'ailleurs d'aversion particulière pour mes séances d'athlétisme à l'école. Et je me suis mise à la course à pied il y a un peu moins de 2 ans. Comme de nombreuses personnes, parce que je suis accessoirement aussi maman de 3 enfants, mon petit dernier est arrivé sur ses 2 ans, j'avais un boulot très prenant et j'avais en vacances envie de prendre un peu de temps pour moi, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, à savoir mes baskets 10 ans d'âge, et puis au bout d'une, 2, 3 sorties, j'ai accroché. Et je me suis vite rendu compte qu'il se passait quelque chose quand j'ai commencé à prendre une babysitter pour aller courir et pas pour aller faire les magasins. Et puis je me suis vite, enfin, en quête de challenge, je me suis inscrite à des courses. J'ai connu, la soif de dépassement de soi et le bonheur que c'est que de passer une ligne d'arrivée. Et 9 mois après, en fait, je courais mon premier marathon en 3h44 de bonheur intense.
Et on depuis... a du mal à vous croire, notamment en régie, ils ont beaucoup de mal à vous croire parce qu'ils se disent que s'ils couraient un marathon au bout d'un ou deux kilomètres, ils seraient pas vivants, tout simplement. 3h44,
il faut qu'ils essayent, hein, tout bêtement. S'ils ont pas,
moi non, je ne suis pas sûr que
une anti-sportive, elle était d'un seul coup, elle a découvert ce plaisir-là parce que c'est vraiment du plaisir quand même la course. C'est une communion avec la nature, c'est une communion. Il faut courir dans la nature à la base. Alors les marathons, c'est vrai que c'est citadin, mais il y a aussi un plaisir d'être dans un environnement formidable, quoi.
Mais 3h44, c'est incroyable.
Ah, c'est formidable. Pour un premier marathon, c'est super. Bravo.
Et j'ai couru mon deuxième dimanche dernier en 3h19.
Et ben
3h19,
voilà.
Oh, c'est top.
On va écouter Woodkid, Run Boy Run, bon, ouais. Un disque qui nous évoquera les courses dans la ville et qui a été choisi par Olivier Bétard et Thierry Dupin.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Run boy run, this world is not meant for you. Run boy run, they're trying to catch you. Run boy run, running is a victory. Run boy run, beauty lies behind the hills. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man. Journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run. It's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run. It's time to run. We'll be right back.
quoi bon courir ? On en parle avec deux journalistes qui a coordonné un dossier dans le magazine Capital, Gilles Tanguy. Un qui officie à France Info et qui vient de consacrer un roman au marathon. Il s'agit de Bernard Thomasson qui signe 42 km 195 aux éditions Flammarion. Une runneuse qui s'est mise au running il y a 2 ans, Clémence Lefébure. Et enfin un médecin, Jean-François Toussaint. Alors docteur, est-ce raisonnable de faire comme Clémence qui s'est mise au jogging sans avoir jamais pratiqué de sport et qui aujourd'hui court plusieurs marathons par an d'après ce qu'elle nous a dit? Est-ce que tout le monde peut faire ça?
Tout le monde peut faire ça. Notre corps est capable d'encaisser ce type d'effort parce qu'il a été en fait capable d'en faire beaucoup plus jusqu'à ce que l'on adopte nos conditions de vie urbaines, citadines et sédentaires. Et donc en fait sur cet aspect-là, on voit bien qu'on a des capacités qui sont extraordinairement fortes, extrêmement puissantes, qu'elles redécouvrent. Et là on ne peut que constater à la fois la qualité, la capacité, parce que 3h19 c'est un temps extrêmement bon.
C'est le temps de Clémence la dernière fois qu'elle a couru. Non mais attendez, parce que vous dites que l'homme a encaissé, mais pensez que les hommes préhistoriques avec leurs gourdins, ils couraient 42 km 195 chaque jour
sans avoir mangé.
Par les lions,
sans avoir mangé. Et ce qui était très étonnant, c'est de voir à quelle vitesse ces transformations se sont faites, justement, et quelles ont été les grandes acquisitions qui sont venues progressivement sur la capacité à maintenir cette endurance, ce qu'on appelle la consommation d'oxygène, la VO2, pour les spécialistes. C'est des points sur lesquels on sait qu'on a cette capacité à le maintenir extraordinairement longtemps, et en particulier dans les conditions de chaleur. C'est-à-dire que on a pris un créneau qui était celui de courir pour fatiguer le gibier, alors qu'il n'y a plus aucun prédateur, le lion ne chasse pas à midi. L'homme est capable de tenir sur ces distances-là le ventre vide pendant des heures et de finir par épuiser le gibier et donc de s'en nourrir. C'est un facteur de survie.
Mais on a tous en tête des hommes politiques qui nous ont expliqué que courir était dangereux, que le sport était dangereux comme Churchill, des présidents de la République qui ont eu des malaises, vous savez, parce qu'ils faisaient trop de jogging, je ne sais pas si ça vous rappelle
quelqu'un. Je ne sais pas si c'était trop ou si c'était pas assez.
Et justement, on se dit que le fait d'avoir une activité nulle, comme la plupart des gens qui travaillent, qui ont un mode de vie sédentaire, et se mettre soudainement comme ça à s'exciter en short, est-ce bien raisonnable?
Alors Churchill était un grand sportif, polo. Il faisait énormément de polo dans sa jeunesse. Et il a continué à avoir une vie très peu sédentaire. Il était sur le front politique, sur la défense et sur une activité physique qui est extrêmement importante. Le second aspect, c'est que toutes les études que l'on fait maintenant et qui sont publiées depuis maintenant plus de 20 ans montrent que plus on avance et plus on constate et on confirme sur tous les continents, dans toutes les tranches de population, que le fait d'être actif, le fait d'être sportif vous donne 3 ans d'espérance de vie en plus pour la population générale qui, comme Clément, se remet à faire du sport, et 6 ans de plus pour les sportifs de haut niveau.
Et nous avons débuté la semaine en parlant de la pollution, et nos auditeurs nous disent, normalement et logiquement, qu'ils aimeraient bien voir l'état d'un jogger qui fait son jogging à Marseille. Alors là, il est question de Marseille, mais je crois que si l'on parle de Lyon ou de Paris, évidemment, la question sera identique. Là aussi, est-il judicieux de faire un jogging partant de pollution, comme c'est hélas le cas en ce moment, docteur?
Alors, c'est un des vrais problèmes sur lequel on voit augmenter les risques cardiovasculaires, les risques pulmonaires, bon, pour les personnes fragiles, les personnes vulnérables. C'est évidemment pas celles-là qui se remettent à préparer un marathon. Pour l'exercice du marathon dimanche, les pics de pollution sont eux en semaine. Ils sont liés directement à l'activité humaine, donc on n'en a pas les effets en cours de performance. Et le risque lui-même est absolument... On a fait cette étude-là, on l'a publiée il y a 4 ans, pour montrer que on a tous les seuils, que ce soit Londres, à Paris, à Berlin, à Chicago, à New York, qui sont inférieurs au code d'alerte. Et donc, le principal, c'est d'éviter effectivement pendant la semaine de faire un entraînement sur le périph à Paris.
Voilà, si vous pouvez éviter le périph. En plus, c'est limité à 70 km/h maintenant, donc ça pose des problèmes. Nous avons Elisabeth qui nous appelle de Lagny-sur-Marne. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors voilà, je suis une prof de gym, une nouvellement retraitée, j'ai fait beaucoup d'activités physiques et j'ai fait des footings et je n'ai jamais trouvé de plaisir à la course. À tel point que pendant une époque je faisais du tennis, il fallait que je coure 2 ou 3 fois par semaine 1 heure.
Mm-hmm. Ah bah quand même, vous couriez.
Ah bah oui, j'ai couru, mais au bout de 20 minutes, j'attendais le second souffle, etc. Il est jamais venu et j'avais mal aux hanches, j'avais mal aux pieds. Et à côté de ça, je peux nager trois quarts d'heure sans problème. Donc pour moi, c'est resté un mystère parce que les gens qui se mettent à la course disent tous que c'est génial. Pour preuve, ma belle-fille qui était comme Madame Lefébure, une nulle en sport, s'est mise à la course et a fait un semi-marathon l'année dernière et a trouvé ça extraordinaire.
Vous trompiez pas de pied pour les baskets, hein, parce que ça peut faire mal aussi de temps en temps si on intervertit.
J'ai tout essayé. Vous avez une collection de chaussures de course impressionnante et j'ai toujours souffert en courant.
Eh ben, on va poser la question à Bernard Thomasson qui va nous expliquer quelle est sa méthode et comment lui vit avec cette souffrance, puisque Bernard, il faut quand même le dire, à Elisabeth, quand on court 42 km 195, le titre de votre roman, mais aussi la distance du marathon, on a mal.
Oui, on a mal, mais ce que vient de dire Elisabeth, heureusement que tout le monde ne court pas, d'abord parce que ça serait très embouteillé dans les parcs et les bois le dimanche. D'autre part, il y en a qui aiment le vin rouge, d'autres qui préfèrent le vin blanc. Voilà, forcément, les 60 millions de Français ne vont pas tous aimer et s'adonner au sport pédestre et à la course à pied. Et c'est tant mieux, au fond. Ceux qui trouvent leur plaisir peuvent le développer. Et ceux qui n'y trouvent pas de plaisir, eh bien voilà, il faut qu'elle aime la natation, cette dame, il faut qu'elle fasse de la natation.
Jean-François Toussaint, quand même, ça fait mal aux genoux. Je veux dire, courir 42 km 195 sur du bitume, avec des rythmes endiablés, c'est pas raisonnable de faire plus d'un ou deux marathons par an.
On a un très grand spécialiste de ces domaines-là qui est Étienne Klein. Étienne Klein est le physicien, philosophe, qui court l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc 18 heures de course, hein, on court la nuit, on court le jour. Hein, et il raconte les cycles qui sont ceux de la douleur et ceux de l'euphorie. Et il raconte progressivement, en particulier au petit matin, comment ces cycles-là s'inversent et redonne des confiances extraordinaires en ce dont il est capable. Alors, il ne l'est pas tous les ans, mais il y a certains où il a dû abandonner. Et il y en a d'autres sur lesquels il rend compte de cette capacité à surpasser sa douleur qui revient par une production très probablement d'endorphines et toute une série de neuromédiateurs.
Clément, sur « Sois sage ô ma douleur » et sur celle que procure la course.
Alors, juste pour revenir sur la douleur en course, je trouve que la douleur devient un bonheur derrière. Et mine de rien, moi, c'est quand même ce qui me motive sur un marathon. J'ai envie de me rentrer dedans. Il y a un challenge derrière. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de la course. C'est le dépassement de soi qu'on peut trouver aussi dans la course. Et du coup, la douleur s'efface parce que après un marathon, il y a eu des moments difficiles, mais on oublie, on garde que le bonheur.
Juste un mot sur Murakami, l'auteur japonais qui a écrit ce très beau livre de l'autoportrait de l'écrivain coureur de fond. Lui, il explique qu'il faut la douleur pour courir. Alors moi, je ne comprends pas lui. Moi, je ne suis pas du tout comme lui. Mais lui, s'il n'a pas les muscles comme ça, comme du béton, ses mollets, il faut qu'ils soient durs comme du béton. Il faut qu'ils souffrent pour réussir à aller jusqu'au bout. Donc chacun sa méthode aussi. Moi, ce n'est pas la mienne. Quand j'ai trop mal, je m'arrête et puis je repars après.
Mais le plus important, c'est d'avoir le plaisir. Et donc, voilà. Si c'est par le water polo que ça se passe, eh bien, on arrête le marathon.
Ou par la natation.
Nous avons Christian au standard. Bonjour Christian.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Christian, vous êtes à l'antenne.
Je voulais simplement signaler que pour moi, la course a révolutionné pratiquement ma vie. J'ai commencé à courir il y a 18 mois, j'avais 45 ans et beaucoup de surpoids. J'ai donc commencé à courir pour perdre du poids. Ça a été diaboliquement efficace, j'ai perdu 20 kilos à peu près. Et ça m'a permis de découvrir en fait beaucoup de choses de ma personnalité. J'ai remis en cause ma façon de m'alimenter, j'ai remis en cause mon appréhension avec la nature. J'ai découvert que le fait d'aller courir le matin à 6h ou 7h du matin, eh ben, ça permettait de... Excusez-moi, je suis un petit peu ému de passer à l'antenne.
Non, mais tout va bien, Christian.
Ça permettait d'être en relation avec la nature, être en relation avec le temps, et du coup j'ai modifié mon équilibre alimentaire, j'ai modifié pas mal de choses dans ma vie, et aujourd'hui je me sens vraiment très très bien grâce à la course, et j'ai couru le marathon de Paris dimanche, simplement après 18 mois de course. Je voulais simplement aussi préciser que, contrairement à ce qu'on peut penser, la course est quand même une activité sociabilisante. Même si on pense qu'on va courir tout seul, voilà, moi j'ai l'habitude de courir avec mes collègues à midi en allant pendant la pause de déjeuner, le week-end avec mon frère, etc. Et donc pour moi la course n'est absolument pas une activité égoïste.
Oui, c'est important effectivement de le rappeler, Christian. Il y a
deux mots importants dans la course. Victor Hugo aurait pu courir. Hein. solitaire ouais. et solidaire, c'est ces mots qu'il a écrits au tout début de sa carrière dans ses carnets de guerre. Le coureur est solitaire forcément parce que l'effort vient de son corps, mais il est solidaire parce qu'autour de lui c'est une communion collective. La course, c'est un acte d'amour collectif. On ne courrait pas 42 km 195 tout seul. On est porté par les autres, on est porté par le public. C'est très important.
Clémence, vous ne courez pas toute seule.
Alors, je cours, vu que je cours beaucoup, il y a des jours où je cours quand même toute seule, parce que sinon, voilà, j'aurais beaucoup d'amis qui me suivraient. Mais je cours en communauté, je cours en fait dans un club. Je fais partie de runners.fr, qui est un site d'information et qui est aussi un club de coaching qui m'apporte beaucoup. J'aurais jamais couru un marathon sans ce club-là. Parce que ça, en fait, ce qui me rebutait dans ce sport, c'est aussi, c'est un sport qui est très individuel. Et du coup, j'ai retrouvé un peu de collectivité dans ce sport qui est à la base un sport solo. Et qui m'apporte beaucoup parce que je vais y chercher l'émulation d'équipe et la progression avec des coachs qui me propose des plans personnalisés, qui me permettent de progresser et qui me motivent. Parce que quand on prépare un marathon, notamment celui de Paris, on court 3 mois avant, la nuit, quand il fait froid en hiver. Et il y a des jours où c'est pas facile de se motiver. Et donc c'est des rendez-vous importants et des rendez-vous qui m'apportent beaucoup. Et la course à pied, c'est aussi ça, c'est des belles amitiés, c'est des belles rencontres. Et il y a vraiment une tendance de fond communautaire en tout cas.
Et la raison qui vous incite à courir dans un club avec des amis. Et pour courir, il faut du matériel. Il faut du matériel, donc c'est devenu un business important. On en parle tout de suite après Rita Mitsuko Ding Dang Dong. D'autant que ce matériel a été testé par un expert dans ce domaine, André Manoukian, qu'on a réussi à faire courir dans les couloirs de la Maison Ronde.
J'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est un confet. Par la fenêtre ouverte les feuilles du peuplier, l'allée pâle traîne encore un peu. Regarde-la, elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tant fort fait couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte. Bell, rolling on the floor.
service public sur France Inter. Il est question de la course, du running, du jogging, enfin bref, du fait de se mettre à faire des foulées pour se défouler. On en parle en compagnie d'un médecin, le docteur Jean-François Toussaint, d'une blogueuse runneuse, Clémence Lefébure, de deux journalistes, notre camarade de France Info, Bernard Thomasson, qui publie 42 km 195, un roman chapitré comme un marathon aux éditions Flammarion, et Gilles Tanguy, qui est journaliste au mensuel Capital, lequel magazine publie un dossier sur le business du running, car Gilles Tanguy, aujourd'hui, c'est devenu un gros business,
oui,
le running.
Bah avec l'explosion de la pratique, c'est vrai qu'il y a, rien que les deux dernières années, il y a eu 2 millions de pratiquants en plus en France. Donc évidemment, ça attire toutes les entreprises. Du coup, ça a généré plusieurs marchés. Bah, déjà, évidemment, il y a la chaussure. Hein. Ils se vendent 9 millions de paires de chaussures de running en France. C'est-à-dire qu'en moyenne, les runners en changent une par an. Mais les plus grands runners, même, en font beaucoup plus.
Et ça coûte de plus en plus cher. Et c'est compliqué d'en choisir. Et c'est la raison pour laquelle Raphaël Mantoux, dans quelques minutes, va vous présenter son test de running avec André Manoukian comme cobaye.
Ouais, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Bon, il y a plein de marques, Asics, Nike, Adidas, évidemment. Puis il y a des petites marques, une marque française notamment qui s'appelle Oka, qu'on met en avant dans Capital, qui a développé une technique particulière d'amorti. Chacun présente des nouvelles technologies, des nouvelles techniques de marketing aussi. Et les prix grimpent, 180, 190 euros maintenant, on est prêt à payer pour des chaussures. Le problème, c'est que l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous, vaut mieux en tester beaucoup. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans Capital avec un expert qui nous les a comparés. Mais le mieux, c'est d'aller en boutique et de les tester. Ouais.
Et puis, il y a donc avec le business de la course qui se développe de plus en plus de magasins spécialisés, pas des magasins spécialisés dans le sport, parce que ça fait un certain temps que ça existait, mais aujourd'hui, vous dites dans votre dossier, Gilles Tanguy, qu'il existe 240 magasins spécialisés dans la course en France.
Oui, il y a des réseaux spécialisés, notamment un qui s'appelle Endurance Shop, qui a vu ses ventes pas mal augmenter ces dernières années, Running Conseil. Après, le plus gros vendeur, ça reste Decathlon, hein, avec leur marque dédiée Kalenji. Ils ont beaucoup poussé la mode du running en France, eux, avec des chaussures pas chères pour le coup. Et donc, il y a des boutiques spécialisées qui se développent un peu partout. Et puis, il y a d'autres marchés. Le marché des marathons a explosé aussi. On a des entreprises françaises bien connues comme Amaury, propriétaire de l'équipe du Parisien, qui organise, et puis du Tour de France et du Paris-Dakar, qui organise le marathon de Paris, celui de Lyon, de Marseille, qui commence à investir à l'étranger, de Barcelone. Et là aussi, les prix explosent. Hein. Faut savoir qu'à New York, le marathon, ça coûte plus de 300 euros. À Paris, souvent, si on s'inscrit tard, c'est plus de 100 euros. Donc, c'est un gros business. Ouais.
Ça n'est pas effectivement une mauvaise affaire. Bonjour Raphaël Mantoux.
Bonjour Guillaume.
Alors j'ai assisté à un moment historique puisque je vous ai vu courir, mais vous n'avez couru à peu près qu'une fois, sauf qu'on vous a obligé à recourir aux côtés d'André Manoukian.
Oui, c'est ça. Et avec David Burette, le vendeur de chaussures de Planète Jogging, j'entre dans le bureau d'André Manoukian à la maison de la radio. Les quatre paires sont prêtes. Ce sont des paires de running. Elles vont être testées. André Manoukian retire ses chaussures de ville. Pour faire le test de service public, il va courir dans les couloirs de France Inter et de la Maison Ronde.
Et moi, je suis plutôt un profil un peu chubby, enveloppé, on va dire, non ? Mais par contre, avec du mollet, parce que j'ai des mollets de montagnard. Hein ? Vous avez un truc pour moi ?
Et j'ai choisi de prendre 4 profils de chaussures complètement différentes. 4 marques différentes, 4 profils différents.
Vous courez, André ?
Je cours en montagne, j'aime bien. C'est-à-dire que j'ai un peu la devise Shadok, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Donc déjà, c'est pénible de courir, mais moi... Non, par contre, ce qui est agréable de courir en montagne, c'est le paysage, quoi, voilà.
Là, on est dans la maison de la radio, donc on va courir dans les couloirs de la maison de la radio.
On va courir en cercle, donc. Hein. C'est intéressant aussi, la technique du cercle, parce que ça se rapproche des chamans.
On a un premier modèle qu'on appelle foulée naturelle.
Je sais pas pourquoi je la sens pas, la foulée naturelle. Avec ça, c'est la technique du doigt de pied en avant, hein, c'est ça quand on court. Et à un moment donné, il faut arrêter de parler de chaussures, il faut les mettre. Hein, parce que c'est... Alors, vous avez eu des bons renseignements sur ma pointure ?
Sur un 42,5. Foulée naturelle, c'est retravailler son pied musculairement.
Ah, André est parti là, on va le suivre.
Écoutez, ça court tout seul, c'est assez agréable. On est dans la finesse avec un certain rebond assez souple. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est en train de changer ma manière de courir. d'un avancement plus horizontal. Vous voyez, d'habitude, je fais des grands bonds un peu désordonnés. Et là, j'avais le sentiment qu'en même temps, la maison de la radio, c'est génial de courir dans les couloirs. Je dois vous avouer, Raphaël, que de temps en temps, je me sers de mon vélo comme d'une trottinette.
Là, on est déjà à France Musique. Vous courez vite, André, je vous suis pas.
J'ai l'impression que j'ai trouvé mon style. Ça n'ira pas en montagne. Pour les couleurs de Radio France, c'est parfait, attention.
Attention, on croise Hervé Pochon.
C'est très fluide.
Alors on continue, on va rejoindre le vendeur quand même.
Il y a une translation comme ça, complètement horizontale.
Ouais. Donc on va passer à la troisième paire, donc un petit peu plus bariolée celle-là.
On va faire un petit essai, ouais, Raphaël, allez, vous voulez bien.
Alors nouvelle paire, nouvelle course.
Alors nouvelle sensation, là comme vous le remarquez, je rebondis plus.
La dernière, je pense que je pense avoir choisi le modèle et avoir terminé sur ce qui pourrait être la plus confortable.
Ah. Avec le gel, j'ai juste une peur, c'est que avec la technique du rebond, c'est que je touche un peu le plafond. Mais waouh.
Alors attention, vos lacets sont défaits, André, là.
Oui, mais ça va aller. On est parti.
On est reparti, allez.
Oh, c'est formidable. Alors là, je ne sens même plus le sol. J'ai la sensation de planer. Ah non, mais c'est dingue.
Oh, c'est celle-là qui me fout,
sans faire plus d'efforts que tout à l'heure. Je crois que j'ai trouvé mes chaussures. On nous dit d'aller doucement dans les couloirs de Radio France. Regardez, on dépasse. On est dans une zone où personne n'est jamais venu, Raphaël.
C'est la zone de travaux. Alors là, c'est les bonnes chaussures.
Alors j'hésitais avec la deuxième paire. Elles sont encore pas du tout mal au dos. Je rebondis pas comme un marsupilami.
Alors là, il y a le vendeur qui vous attend, il vous observe.
Alors ça amortit, c'est parfait. Ce sera celle-là pour moi.
Alors elle valent combien celle-là?
Alors ces petites chaussures sans couture dans le chausson et le maximum d'amorti, on est sur la Nimbus, donc un modèle ASICS qui vaut 175 euros.
C'est important d'essayer sa chaussure. Je pense que il y a un rapport d'intimité absolue entre le coureur et sa pompe. Il faut essayer, faut courir, faut la pratiquer. Il faut la sentir, enfin avant, parce qu'après. Et aujourd'hui, j'ai rencontré ma paire de chaussures.
Un beau moment immortalisé par vous, Raphaël Mantoux, avec un moins bon moment que l'on retrouve dans le magazine Capital, c'est que les chaussures de course haut de gamme sont hors de prix. 170 euros pour la Hoka Conquest, que vous notez avec un 18 sur 20, 17 sur 20 pour la Mizuno Wave Rider qui coûte 140 euros. Bref, Gilles Tanguy, une chaussure, c'est un bras.
Oui, mais on a fait appel à un expert là qui les a comparés, testés, évidemment. C'est la Hoka qu'on met en tête. Après, on peut dire aussi que les gens sont prêts à dépenser, à mettre un iPhone quand ils courent, qui va coûter 600 euros. Donc voilà, c'est cher, mais à vrai dire, si on s'en sert autant d'heures que ça par semaine, c'est peut-être pas inutile.
Comment en faites-vous, Bernard Thomasson? Vous, combien payez-vous vos chaussures de course?
Moi, pas cher. Moi, j'achète des ASICS de seconde génération de l'année précédente, ou voilà, et j'ai payé 70. Alors, je les achète aux États-Unis souvent 70 dollars, 80 dollars.
Et oui, parce qu'il faut dire que ces chaussures valent très cher, donc 140, 150 euros. Les tout derniers modèles valent très
cher, mais l'année suivante, elles valent beaucoup moins cher.
Si on achète celle de l'année précédente. Et vous, Clémence Lefébure, vous avez fait une course avec des chaussures Décathlon qui, là, coûtent à partir de 40 euros. C'est donc ça. On n'est plus du tout sur les mêmes gammes de prix. Et vous avez fait une course très longue, d'ailleurs.
Alors j'ai fait un trail qui est un petit trail, c'est la Saint-Élion, c'est une course de nuit qui se fait de Saint-Étienne à Lyon, que j'ai faite en relais.
Très ancienne course, c'est une des premières en France, ouais, années 70.
Une très belle course, et je l'ai faite après mon marathon, c'est un trail, je savais pas si j'allais accrocher, donc j'avais pas envie de dépenser, de perdre un bras justement sur des chaussures de trail.
Et alors résultat des courses,
j'ai acheté l'entrée de gamme Decathlon, donc une à la Captor Run Challenge, ça s'est très bien passé.
Et la preuve donc que l'on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent dans le domaine de...
Je peux poser une question au docteur.
J'allais la lui poser, mais allez.
Sur les pieds, les chaussures à 5 doigts, là, les five fingers. Moi j'en ai une paire et j'adore courir avec. Est-ce que c'est bon pour la santé ou pas?
Alors juste pour ceux qui ne les ont jamais vus, ouais. Bernard Thomasson, il faut expliquer qu'aujourd'hui on a différents modèles, différentes recherches. Et donc il y a des chaussures qui ressemblent à des chaussettes en plastique qui donnent l'impression donc d'avoir une... surplante des pieds en quelque sorte avec beaucoup moins d'amorti. Docteur, vous qui observez les pieds des coureurs, quelles sont les chaussures qu'il faut choisir pour
courir sans se blesser. Est-ce que, par exemple, le fait de courir sans amorti avec ces chaussures-là est une bonne idée?
C'est la tendance que l'on qualifie de physiologique actuellement, sur laquelle on veut tenter de redécouvrir justement ces points-là sans répercussion d'énergie ou restitution d'énergie importante liée aux semelles, ce qui fait en général l'argument le plus important de toutes les autres. On n'a pas encore de certitude sur le long terme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a peu de chances d'avoir des effets très négatifs. Et on en veut pour preuve ce qu'ont été les carrières de Zola Budd et puis avant elle, surtout Abebe Bikila, double champion olympique à Rome et à Tokyo, pieds nus.
Mais lorsqu'on se met à la course, si on ne veut pas courir pieds nus, est-ce qu'il faut choisir des chaussures qui donnent une impression d'amorti, une impression très forte, ou bien au contraire des chaussures avec moins d'amorti? Est-ce que ça fait mal aux genoux si on court sans amorti?
Ça va être comme le choix précédent du sport lui-même. Ça va dépendre de sa constitution. Donc, si on veut aller jusqu'au bout, effectivement, avoir une consultation avec un podologue peut aider du sport qui connaissent bien l'ensemble de ces points-là. Il existe quelques spécialistes de cette nature. Quand on n'a pas les possibilités de les consulter, c'est peut-être pas la peine. Il suffit de voir, et Clémence le démontre très bien, comment sur place, avec une paire d'entrée de gamme, on arrive à tenir. Et si ces points-là ne sont pas douloureux, le plus difficile ensuite, c'est d'enchaîner les kilomètres à son rythme sans se mettre dans le rouge et donc avoir cette capacité-là pour tenir sur les 42 kilomètres lorsqu'on fait un
marathon. Sans se mettre dans le rouge, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire avoir à ce moment-là la capacité à entendre ses alertes. On a toute une série de boucles qui sont là pour nous dire « attention, là, ça commence à être excessif ». Il y a des boucles qui, depuis les centres qui dirigent à la fois la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la conscience cérébrale, tout cela est en train, à chaque fois, consciemment ou pas, de vous donner des alertes. Quand on est capable de les tenir, de les respecter, et en particulier avec quelques coachs qui vous disent « vous allez le sentir au 35e kilomètre ou au 32e, attention, chez vous, ce sera peut-être un petit peu plus tôt. Quand on est capable de prendre en compte l'ensemble de ces points-là, alors à ce moment-là, on retrouve toutes ces capacités et on retrouve le plaisir.
Gilles Tanguy.
Oui, il y a de plus en plus d'outils qui permettent aujourd'hui, notamment les montres avec cardio-fréquence-mètre intégré, qui permettent de surveiller ces évolutions. Et du coup, de plus en plus d'équipements de coureurs utilisent ces équipements. Et ça crée tout un business aussi. Il y a plein de sociétés, notamment françaises, qui se sont développées là-dedans. Weezings, par exemple.
Oui, c'est celui qui est le plus florissant actuellement.
Voilà, et du coup, ça explose. Ça.
Docteur, là aussi, on entend souvent dire l'une des meilleures façons de courir sans danger, c'est de courir sans être essoufflé, autrement dit en ayant toujours la capacité de parler. Est-ce que c'est un bon indicateur?
C'est pas tout à fait celui de Kimeto lorsqu'il bat le record du monde à Berlin au mois de septembre. Hein. Il s'adresse plus la parole.
Deux heures, deux minutes. Énorme, c'est du vin.
Mais enfin, si on ne veut pas courir pour faire tout de suite le championnat du monde, si on veut courir tous les jours...
En fait, tout dépend de son objectif, tout dépend de son intention.
Lorsqu'on veut courir pour être en bonne santé, est-ce que, par exemple, il faut s'efforcer de courir sans être essoufflé au point de ne plus pouvoir parler?
Une fois de plus, ça dépend de ce que vous avez en tête, parce que il n'y a pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain risque, et on en parlait pour la reprise, il faut avoir effectivement à 45 ans, quand on est obèse, comme Christian, quand on a besoin une reprise qui est soit encadrée.
Il a dit qu'il était obèse, il a dit qu'il,
avait, dit qu'il avait 20 kilos de trop. En général, c'est des points sur lesquels on a... Mais sur ces aspects-là, on a aussi l'importance d'avoir sur l'ensemble de ces alertes une capacité à les réécouter, à reprendre ces conditions de physiologie.
Isabelle est au standard. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Nous vous écoutons Isabelle.
Moi je voulais juste témoigner. J'ai couru en amateur pendant une trentaine d'années. Je n'ai jamais cherché à faire de la compétition. J'ai fait 3 semi-marathons. Pareil, je suis toujours arrivée la dernière, mais ce n'était pas ça le problème. Et maintenant que j'ai arrêté depuis 5-6 ans, j'en ressens des douleurs aux genoux, au dos. Voilà, donc c'était simplement pour témoigner des conséquences de la course.
Des douleurs que vous imputez à la course directement?
Oui, je courais entre 20 et 30 km par semaine, mais sans vouloir dépasser mes limites.
Eh bien, on va poser la question au médecin Jean-François Toussaint. Est-il normal d'avoir des douleurs de ce type comme Elisabeth? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut imputer à la course?
La question des séquelles du sport en général, qu'il soit lié à un entraînement intensif, très long, de haut niveau même parfois, est clairement celui sur lequel on regarde avec le plus d'attention les impacts. Ce que l'on constate, c'est que, contrairement à ce que l'on pensait, on a des effets qui, dans la population générale non sportive, sont tout aussi fréquents, voire plus précoces encore, que ceux qu'on peut avoir dans le sport. Et les gens qui souffrent d'arthrose, qui souffrent de leurs genoux, qui souffrent de leur dos, qui ont des lombalgies, on en a des quantités en France, avec des problèmes qui démarrent à 30 ans, qui démarrent à 35 ans. L'imputation au sport est très difficile à faire, sauf sur des grandes études épidémiologiques qui sont actuellement en train de nous montrer le contraire. C'est-à-dire qu'il reste des séquelles, on en connaît très bien par exemple les séquelles chez les rugbymen, chez les judokas, qui sont liées à des aspects très spécifiques du sport. Mais tout le reste, y compris les programmes de prévention de l'arthrose par l'activité physique, sont en train de changer complètement l'idée qu'on se faisait de ces contre-indications.
Nous avons Marc au standard. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons Marc.
Eh bien, c'est une question à nouveau pour le docteur. Voilà, moi j'ai couru pendant de nombreuses années dans un club de sport amateur à Paris, et donc on s'entraînait le dimanche Bois de Vincennes ou Bois de Boulogne, mais régulièrement on pratiquait aussi sur un stade ce qu'on appelle le fractionné, c'est-à-dire vous courez plus vite pendant une minute, vous récupérez tout en courant, et ensuite vous refaites encore quelques petites pointes de vitesse de fractionné. Et là, les responsables et même d'autres médecins me disaient, mais c'est nécessaire de faire ça quand on court, imaginons, une heure, parce que sinon, si le cœur court toujours à la même vitesse, eh ben, on a plus de risques à la longue, au fil des ans, d'avoir une maladie cardiovasculaire. Voilà.
Le point de vue du docteur qui fait la moue, merci pour cette question Marc.
Non, c'est un point sur lequel on a énormément là aussi de questions et de retours, en particulier sur la conséquence majeure qui est celle de la mort subite dans le contexte sportif. On a à peu près 1500 décès, donc qui aboutissent à des vrais problèmes, enfin des
1500 décès mortels
par mort subite en contexte sportif. La seule chose que l'on oublie à chaque fois, c'est qu'il y en a 45 000, 30 fois plus, qui sont liés à l'absence de sport. Et donc, le fait de ne pas prévenir les accumulations des risques métaboliques, le diabète, l'hypertension artérielle, le surpoids, etc., par le biais d'une vie sédentaire et d'une absence d'activité, est majeur. Et c'est au contraire à l'inverse que ça doit se dire. Alors, après, toutes les questions de fractionner sont au contraire des questions pour augmenter les capacités, augmenter les conditions d'entraînement pour une meilleure performance. Et in fine, c'est associé, comme je vous le disais au début, à une augmentation de l'espérance de vie.
Alors c'est à vous de choisir hein, si vous voulez mourir en jogging. Néanmoins, il y a de plus en plus de techniques. Bernard Thomasson, lorsque vous avez consacré ce roman au marathon, vous êtes bien gardé de nous dire qu'il y avait aussi toute une littérature sur le marathon avec des techniques. C'est très compliqué. Les gens commencent à utiliser un jargon, à parler de VO2, de VO max. Expliquez-nous à quoi ça sert et à quoi ça rime.
Ça sert à essayer de progresser la VO2 max et la capacité maximale de respiratoire qu'on peut avoir. Et l'idée pour accélérer, pour aller plus vite dans un marathon, c'est-à-dire faire un temps plus réduit, au lieu de courir en 3h19, si notre ami veut courir en 3h10 ou 3h15, il faut qu'elle accélère, donc il faut qu'elle augmente sa capacité. Et donc justement, le fractionné sert à ça, c'est à augmenter la VO2 max, c'est à augmenter la capacité d'avoir de l'air dans ses poumons pour pouvoir aller plus vite. Et ça, c'est le principe du jeu. C'est pas du tout pour faire du fractionné n'augmente pas le risque cardiaque. Le seul intérêt du fractionné, c'est d'augmenter justement la VO2 max et de pouvoir aller plus vite.
Clémence Lefébure, vous avez donc suivi un entraînement avec un certain nombre de techniques pour vous aider à aller plus vite.
Clairement, s'il y a le fractionné, c'est ce qui m'a permis de progresser sur toutes les distances. C'est quand même moins 25 minutes sur mon dernier marathon, c'est moins 15 minutes sur un 20 km, et ça n'est à 90% que ça, c'est ce qui me fait progresser en vitesse, en allure.
Et là, on voit Gilles Tanguy, puisqu'on parlait du business, du running, de la course. Les auditeurs sont pas contents parce qu'on utilise beaucoup de mots anglais. Ils nous disent, voilà, pourquoi vous parlez de trail et pas de course? Pourquoi vous parlez de running? C'est snob. Alors effectivement, on va parler français. Tous ces articles qui permettent effectivement d'améliorer ses performances sportives avec, vous l'évoquiez tout à l'heure, les montres et des programmes associés pour améliorer améliorer a priori les performances sportives.
Oui, il y a plein de petites choses. Alors, il y a les compléments alimentaires, hein, notamment, qui se développent chez toutes les enseignes spécialisées ou chez Decathlon, qui sont censés donner un petit coup de boost. Alors là, les avis sont partagés sur l'efficacité de ces compléments alimentaires. Il y a des trucs plus sympas aussi, les semelles connectées. Il y a une petite entreprise à Nancy qui a créé ça, qui permet de bien mesurer sa marche. Il y a les t-shirts connectés aussi qui mesurent la fréquence cardiaque. Il y a des petites applis aussi marrantes qui se sont créées, comme visiter une ville en courant à Paris ou à Lisbonne. Ça, bon, faut aller, on va vite devant les monuments du coup, mais ça joint l'utile à l'agréable.
Nous avons François au standard. Bonjour François.
Oui, bonjour Guillaume.
Nous vous écoutons, François.
Oui, bonjour. Je voulais juste apporter un témoignage. J'ai 40 ans, ça fait à peu près 5 ans que je cours, et je suis parti de pas grand-chose, et je suis pas arrivé non plus à être un grand champion, parce que je suis souvent habitué du dernier tiers des classements, mais plus en fait dans le fait de courir, ce que ça m'apporte, c'est de la réflexion, parce que c'est un temps qu'on a, on parlait de courses un petit peu longues, ça demande quand même énormément d'heures d'entraînement, et ces heures d'entraînement-là, moi je les mets... À profit de la réflexion. J'avais lu un livre d'un monsieur, d'un philosophe, d'un professeur de philosophie qui s'appelle Guillaume Leblanc, je crois, qui s'appelait « Courir, méditation physique ». Et c'est vraiment ce que je ressens quand je cours. Ça me permet de, alors peut-être pas d'aller jusqu'à méditer, mais au moins cette réflexion, se connaître toi-même, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Je cours sans musique parce que
ah oui, c'est ça, vous courez sans musique du coup.
Voilà, pour le coup, je cours sans musique parce que ça me déconcentrerait presque de mes pensées.
J'imagine Bernard. Ah, merci,
je suis très heureux d'entendre ce témoignage parce que c'est super.
Pourquoi? Parce que vous aussi, vous courez sans musique.
C'est super important, mais c'est vrai en plus. Non, moi, je comprends musique. Moi, j'adore, au contraire, entendre les oiseaux, les animaux, etc. Mais c'est un temps qu'on a à
Paris,
soi.
Vous entendez les oiseaux, Bernard.
Oui, allez dans le bois de Boulogne, vous entendez les oiseaux. Je suis désolé. Hein. C'est un temps qu'on a pour soi et qui permet de se libérer. On a un lâcher prise total qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont à la maison, des questions qu'on a dans sa tête qu'on arrive à résoudre. Je cite par exemple l'écrivaine américaine Joyce Carol Oates qui raconte dans un livre comment la course lui permet de visualiser ses chapitres et de mettre ses textes en images, et après ça coule tout seul. Les Charlot Pinson, les psychologues, eux aussi.
Les sociologues.
Courent tous les matins, enfin, ou couraient, je ne sais pas si c'est un peu âgé maintenant, mais couraient 4-5 km par jour, tous les matins avant d'aller travailler, parce que ça libère l'esprit. Et c'est vrai que c'est un moment de méditation, vraiment.
Et vous aussi, Clémence Lefébure, vous courez sans musique, vous courez avec de la musique?
Je cours avec les deux, principalement sans musique, mais disons que quand j'ai besoin de me booster un peu, quand j'ai vraiment pas envie d'y aller, parce que ça arrive, je me mets un petit peu de musique ou j'écoute la radio.
Et nous avons Cathy qui nous demande sur Internet, je voudrais reprendre la course à pied, mais je suis en surpoids. Dans ce cas, comment procéder, Jean-François Toussaint, vous qui êtes docteur, que conseiller à Cathy ?
Procéder par étapes et surtout le faire, parce que elle va avoir au début cette idée que elle peut pas, elle a du mal, elle n'ose pas se montrer. Non, tout ça, il faut passer au-dessus pour justement avoir très rapidement ses capacités. L'équilibre, on l'a entendu dans le témoignage de Christian tout à l'heure, il vient sur la capacité à régler ses entrées, ses sorties, ses apports, ses dépenses. Les dépenses, on n'en fait plus. Le fait de pouvoir reprendre progressivement comme ça, et donc très lentement, il ne faut pas se donner des marches trop hautes, il faut juste commencer par y aller sur un exercice qui sera celui d'un quart d'heure la première journée, 20 minutes le lendemain,
alterner
marche et course, oui, venir sur une demi-heure la semaine suivante et progressivement se donner ce plan à soi-même qui est celui qui est le plus intéressant dans sa propre progression et devenir ensuite tenter éventuellement de se dépasser. Mais c'est un autre objectif. Et donc l'idée principale, c'est de retrouver son équilibre par le biais d'une fonction très progressive.
Et son estime de soi.
Et son estime.
Le problème, c'est qu'au final, ça finit par revenir cher. Vous nous avez présenté le business du jogging, Gilles Tanguy, business du jogging, qui sera d'ailleurs au cœur, je profite de cela pour annoncer l'émission On n'arrête pas l'écho, l'émission du samedi matin à 9h15 sur France Inter, présentée par Marion Lourd, qui sera consacrée au secteur du running. Et au bout du compte, ça finit par revenir cher, Clémence Lefébure, parce que on est tenté par différents gadgets et différents vêtements proposés pour la course.
Tout à fait. Je pense que la pire idée reçue sur la course à pied, c'est que c'est un sport accessible, parce qu'effectivement, au début, il faut une paire de baskets et hop. Mais justement, enfin, ça va très très vite. L'époque de Rocky Balboa qui court en jogging difforme sur la plage est terminée.
Je m'inscris en faux complètement.
Non, c'est pas ça.
Je m'inscris en faux complètement parce que moi j'ai une paire de baskets que j'utilise depuis 2 ou 3 ans. J'ai des vieux t-shirts. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter les trucs à la mode, les tout derniers modèles. Alors ça.
Je suis pas tout dernier modèle, mais on se laisse très vite emporter par le marketing.
On peut, alors, mais on n'est pas obligé.
Celui qui veut.
Moi, ça me coûte pas un rond depuis 2 ans de courir.
Quand vous vous entraînez, on parlait des objets connectés. Quand vous vous entraînez, quand vous faites du fractionné, vous allez avoir besoin d'une montre, celle que j'ai à mon poignet qui ne me quitte plus, qui me permet de programmer mes fractionnés spécifiquement sur les distances données et qui me permet de progresser.
On peut les écrire à la main et puis d'avoir un petit chronomètre, enfin une montre chrono basique. Non, on est obligé d'acheter la toute dernière montre technologique.
Il y a 20 ans, on courait en vieux collant. Mais aujourd'hui.
Cela dit, si Bernard Thomasson se mettait à courir en vieux collant, je crois qu'il aurait du succès au pied de la maison de la radio.
Ce que je veux dire, c'est que celui qui veut courir avec sa paire de baskets, il peut. Mais aujourd'hui. Le fait est là, vous en parliez tout à l'heure au niveau du marché, on court mode, on court high-tech et on court communautaire. Et du coup, ça a un coût.
C'est une question de choix, une manière, on n'est pas obligé de faire ses courses pour courir ou si. On retrouve en tout cas tout ça dans le magazine Capital. On retrouve également le roman de Bernard Thomasson, 42 km 195 aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonjour Nagui.
Bonjour Guillaume.
Alors vous courez en bande avec votre bande originale.
Oui, je cours avec la bande, oui. Je ne cours pas du tout. J'étais même fatigué déjà de vous entendre courir autant. C'est impressionnant.
On a beaucoup couru.
Surtout le fractionné, ça me fait déjà peur.
C'est vrai.
Reprenez votre souffle et la bande originale accueille aujourd'hui Mélanie Douté, Olivier Barou, le réalisateur, et Alain Chamfort, le chanteur. Vous savez tout.
Eh ben, on vous retrouve tout de suite après le flash. Merci Nagui. Il est 11h passé de 10 secondes sur France Inter.